on vous propose un entretien avec Ahmed, un réfugié tchadien qui a maintenant la nationalité française et qui témoigne de son parcours depuis son village du Tchad jusqu'à Arras. Une interview réalisée en compagnie d'Issam, notre stagiaire. Issam, avant d'écouter l'interview, un petit mot en ce qui concerne le parcours de Ahmed.
Je trouve ça assez triste parce que ça n'a pas l'air, mais pendant son parcours, il a eu énormément de chance, déjà pour avoir une voiture, puis après pour avoir été sauvé ensuite par deux chasseurs. Je lui souhaite encore cette chance en ce moment, parce que même s'il a eu cette opportunité dans son parcours reste quand même très affreux. Et il a eu un très grand courage pour avoir traversé tout ça sans ses parents.
Eh bien, je te remercie Issam de ton commentaire et d'avoir également participé à cette interview qu'on écoute tout de suite. Alors, on est en compagnie d'Ahmed, qui est originaire du Tchad. Bonjour Ahmed.
Bonjour.
Et puis, pour nous accompagner, et peut-être qu'il posera quelques questions, il y a notre petit stagiaire qui s'appelle Issam.
Bonjour.
Et lui, qui est syrien et qui est arrivé en France il y a l'âge de 4 ans. Alors, première question, Ahmed, t'es arrivé en France en quelle année et pourquoi tu as quitté ton pays?
Alors, moi, je suis arrivé en 2016. J'ai quitté mon pays à cause des problèmes intercommunautaires. Et j'ai traversé les déserts, arrivé en Libye. Après, voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton passage par la Libye, qui n'est pas un pays facile? C'est assez atroce quand même pour les migrants qui passent par la Libye.
Tout à fait, tout à fait. C'est très, 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 très difficile. En tout cas, il y a des présents, il y a des maltraitances, il y a des violences, il y a des insultes, il y a des... on a subi beaucoup de choses, malheureusement, on a subi beaucoup de choses. Mais voilà, à la fin, Dieu merci, on a décidé, en tout cas, certaines sont toujours là-bas. Mais bon, on a décidé de rejoindre en Europe, on a pris la Méditerranée, donc... Dieu merci qu'on a traversé vivant. Certains qui malheureusement ils n'ont pas eu la chance de traverser. Il y a certains qui se sont noyés sur le Méditerranée. C'est quelque chose qui est très, très triste. Mais voilà.
Et tu avais quel âge quand tu es arrivé quand tu es parti du Tchad en fait.
Du Tchad,
quel âge?
J'avais l'âge de 2 ans.
Alors, comment on vit ça dans la tête d'un petit gamin de 2 ans quand on quitte son pays? Comment ça se passe? On a du mal à s'imaginer ce qui peut se passer.
Mais le chose qui est vraiment triste, même malgré notre jeune âge, je ne parlais pas à moi de seul parce qu'il y a plein de gens comme moi, on est obligé de quitter notre pays parce que c'est la peur. En fait, on a toujours peur. C'est ça qui nous pousse de quitter le pays. Moi, j'ai vu le frontement intercommunautaire. J'ai vu des personnes de ma famille qui sont mortes, que leur image, malheureusement, est toujours dans ma tête et qui c'est inoubliable pour moi. Et c'est très, très difficile, en tout cas, de quitter le pays. On a traversé le désert. J'ai fait 3 semaines, la voiture qui était en panne, notre voiture était en panne en plein désert. On était presque mourus de soif, ce qui est tellement grave. Heureusement qu'on a tombé sur des personnes chasseurs libyens qui nous a sauvés, nous a aidés de l'eau. Ensuite, il nous a ramené jusqu'à Libye.
Quand tu dis des chasseurs, c'est des civils, c'est pas des militaires.
Non, des civils. En tout cas, ils ont venu avec des voitures civiles, ils sont habillés en civil.
Issam voulait te poser une question.
Il y a des chasseurs dans le désert, mais du coup, c'est quelle sorte de chasseurs?
Je connais pas exactement quelle sorte de chasseur. Moi, tout ce que j'ai entendu, des chasseurs qui, c'est des chasseurs en plein désert, des Libyens. En tout cas, tout ce que j'ai compris, c'est ça qu'ils m'ont dit. Donc, je sais pas à quelle sorte.
Quand t'es arrivé en France, comment ça s'est passé pour toi? Puisque, du coup, t'es passé par la Libye. J'imagine que c'était pas simple. Issam, tu voulais peut-être me poser une question.
Donc tu as dit qu'en premier, tu étais venu en Italie sortant...
En Italie, du coup, en Libye, on a traversé la Méditerranée pendant 3 jours sur le bateau. On arrivait en Italie. En Italie, j'étais 3 mois, en tout cas 3 mois ou plus, je sais pas exact. Ensuite, j'ai décidé de partir rejoindre ici en France. Ouais, les tellement difficile qui je parlais pas à l'époque, je parlais pas français du tout. Je connais personne, c'est tellement très dur. J'ai vécu quand même presque 2 mois dans la rue, qui est tellement grave parce que les manger c'est difficile, le froid, le pluie qui tombe, c'est tellement très 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 dur. Mais bon, j'ai toujours l'espoir, j'ai gardé l'espoir et en tout cas j'ai surmonté à cette étape-là. Et voilà, je prends les trains sans savoir où il va. Moi, je monte, hein. Je monte dans les trains comme ça. J'ai fait un peu le tour. Un jour, de Paris, je suis monté dans un train qui est arrivé à Calais. Et il y a un contrôleur dans les trains qui vient me pose des questions sur l'étiquette, pourquoi j'ai pas des billets, etc. En tout cas, je l'ai communiqué avec ma langue maternelle parce que je parlais pas d'autres langues, je parlais pas français à l'époque. Du coup, là, quand on ne se comprend pas, il était obligé d'appeler la police, voilà, comme quoi quelqu'un qui est dans les trains et qui n'a pas de billets. La police, comme je suis arrivé à la gare de Calais, la police qui je l'ai trouvé devant moi, ils ont regardé un peu, j'ai vu rien. Ils ont compris tout de suite que je viens d'arriver. Ils ont été obligés d'appeler un traducteur pour que je l'explique. Voilà, vu que je suis mineur à l'époque. Donc là, il m'a ramené à la jungle à l'époque, dans la jungle.
À
J'étais
Calais.
à Calais, tout à fait. Et j'étais 2 nuits là-bas. Et je trouvais, il y a une association qui est venue, qui savent que je suis mineur. Donc ils m'ont ramené dans une sorte de centre d'hébergement à Sainte-Mère à l'époque. Ils m'ont fait interview, en tout cas, voilà, j'explique un peu, ils m'ont fait interview où je viens, etc. Avec l'acte de naissance, ils ont pris l'acte de naissance. Et après, ils m'ont transféré à Arras. Comment il s'appelle France Terre d'Asile,
Ah, France Terre d'Asile,
France Terre
ok.
d'Asile 64, plus d'accord.
Issam voulait poser une question.
Donc, comment tu penses avoir été accueilli en Italie?
C'est bien, hein? C'est bien, on vient du. Entre guillemets, on vient de l'enfer quand même, parce qu'on était tellement grave sur le lot. On était accueillis bien, hein. On était accueillis bien, on nous a donné à manger, on dort. C'est vrai il vient très très difficile pour certaines personnes, mais nous, autant qu'on était mineurs, on était accueillis bien. Ensuite, voilà.
Ouais, parce qu'il faut préciser, donc, t'es passé par la Libye, l'Italie et après la France,
Tout
hein. C'est
à
bien
fait,
ça.
tout à fait.
Et t'étais mineur, donc, mais t'étais seul, ta famille n'était pas là, en
Tout
fait.
seul, personne, personne.
Alors,
J'étais tout seul.
du coup, quelqu'un s'occupe, pendant la traversée, comment ça se passe? Comment?
Personne qui s'occupe de moi. J'ai eu des personnes je suis tombé sur plein de personnalités. Il y a des Somaliens,
Somalien, ouais.
Somaliens, il y a des Érythréens, il y a
Érythréen, ouais.
des Côte-d'Ivoirais, Guinéens, etc. Il y a plein de monde. On communique même très compliqué parce que certaines ils parlaient pas l'arabe. Moi, je parle arabe, c'est ma langue maternelle. Ils ont été super gentils. On est presque 102 personnes dans les bateaux. Ouais, et personne qui m'a dit. Donc, voilà, j'ai la chance de trouver, toujours tomber sur des personnes qui c'est assez sympathique.
Donc, c'était quelle sorte de bateau? Comment était le bateau?
C'est un bateau, un gros bateau, très très grande, et pas un bateau du. Je connais pas exactement à quelle sorte, mais pas un bateau.
Pneumatique, enfin, c'est une espèce de barque.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'était vraiment un paquebot, quoi. Enfin, un
Tout à fait,
bateau. Hein.
c'est ça,
Ouais,
c'est ça. Voilà.
ok.
Voilà.
Ouais, donc, c'était pas une torture, une vraie horreur de
Si,
la
si.
traversée.
Un
Ouais,
vrai
vous étiez
horreur, parce
serré.
que.
Vous
Très
étiez.
très très serré
Ouais.
et très risqué aussi, très risqué. Ben, on a une chance sur deux de traverser, quoi. Très très grave. On a eu 2 bateaux, notre bateau qui était traversé et l'autre bateau que, comme on est arrivé, on a posé des questions. Les personnes qui nous ont accueillis, ils nous ont dit qu'ils étaient se noyés malheureusement, et c'est ça qui est très très triste en tout cas pour ces personnes-là. Et je remercie toujours le bon Dieu qui m'a donner la chance en tout cas de traverser, sinon j'étais parmi de ces personnes qui s'est noyé malheureusement. Même leur corps qui n'a pas été trouvé, c'est tellement triste en tout cas. Mmh. Et...
Du coup, tu es arrivé en France, enfin. Comment ça s'est passé? Comment tu as réussi? Tu as été pris en main administrativement parlant? Quelles sont les associations qui t'ont aidé? Comment ça s'est passé pour toi jusqu'à Arras?
Alors, j'étais toujours, comme je suis du coup arrivé à Arras, je trouvais les personnes des France Tardasie, les éducateurs, qui vraiment, je le remercie au fond du cœur. C'est des personnes formidables, des personnes très très gentilles. Il nous a beaucoup, j'ai dit à nous a parce qu'il y en a beaucoup des personnes devant moi. Il nous a toujours aidé, il nous a motivé, il nous a toujours conseillé en tout cas. Et je le remercie fond de cœur, les professeurs, que je suis tombé sur des bonnes, vraiment de bonnes personnes. Mon professeur, Madame Joanne, à l'époque, je l'ai trouvé, j'étais dans sa classe au collège d'Iné Diderot, qui est des personnes vraiment très très gentil et qui m'a toujours motivé, il m'a toujours, en tout cas il m'a donné l'envie d'apprendre, apprendre, je prends, donc je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés.
Je sais qu'en Sud d'Afrique, il y a quelque chose comme ça, il y avait quelque chose comme, quelque chose sur les Noirs, les Blancs, donc est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé
Ah oui, parce qu'on peut revenir sur le conflit, tu me parlais
intercommunautaire.
Tout à l'heure. Intercommunautaire, oui. On connaît pas bien cette histoire. Parce que le Tchad n'est pas considéré comme un pays en guerre à la base.
C'est ça qui est triste. Et le monde ne voit pas que c'est un pays de guerre, mais l'intérieur du pays, il passe tellement de choses qui est vraiment très très grave et c'est déclenche. Il y a beaucoup de personnes qui meurent, beaucoup, parfois des centaines, des 50 personnes, des 40, ouais, comme tu dis, entre les blancs et les d'autres. Mais nous, au Tchad, il faut savoir, on a beaucoup d'ethnies au pays. Et les personnes là-bas, l'affrontement intercommunautaire, c'est pas parce qu'il y a des Arabes, il y a des pas Arabes. Non, les personnes là-bas, il y a les haines en tout cas. Et ça c'est, vient d'arriver. La haine qui, en tout cas, est créée comme ça, il y a des haines comme ça. Mais les choses, c'est des problèmes des terrains, des terres en tout cas. Il y a certains qui disent, voilà, c'est notre terre. Mais tu sais, ma famille, avec l'autre communauté qui sont attaquées, qui sont affrontées, c'est à cause des terres, problèmes des territoires. Il y a certains qui disent, voilà, c'est notre territoire, et les autres qui disent notre territoire. Et c'est ça qui, c'est tellement triste. J'ai toujours dit... c'est le pays qui prend pas les responsabilités, parce que ce problème là c'est le pays qui doit gérer. Il doit gérer une fois pour toutes. Pour mon village, aujourd'hui en janvier dernier, je suis tourné au Tchad, et toujours malheureusement dans mon village natal, là, il y a toujours le problème, toujours qu'il n'ait pas été résolu. Et c'est tellement grave que ces problèmes continuent toujours. Et les pays, ils traitent, en tout cas, ils ne traitent pas les choses au sérieux, ils ne traitent pas ces problèmes, ils ne prennent pas les choses au sérieux, et qu'ils laissent les populations meurent comme ça. Toutes les personnes, ils sont, en tout cas, ils sont de bien personnes, ils sont de toutes les deux communautés, toutes les deux ethnies, ils sont liés par les partages, l'histoire, ils sont liés vraiment des personnes, comme une famille. Mais c'est à cause des malentendus, à cause aussi manque l'abandon en tout cas de l'État.
Mais du coup, ça a commencé comment, cette histoire?
Le premier affrontement que je le vis, en tout cas devant mes yeux, c'était en 2006. J'étais à l'âge de 6-7 ans, c'est vrai que très petit, mais j'ai pas oublié. J'ai vu des personnes, des 5 membres de ma communauté qui sont morts ce jour-là, je le vis. L'un d'entre eux, c'était mon oncle dans cette communauté. Et c'est tellement malheureusement, que tellement triste en tout cas, et tellement un choc en tout cas, un traumatisme pour moi, parce que j'arrive toujours pas à oublier, et que ça m'est, en tout cas, ça me fait toujours mal. Et la raison de mon sortie, de quitter le pays, C'est à cause de quelque chose comme ça. C'est à cause d'affrontements comme ça. Vu que je vis des choses comme ça, il n'y a pas de sécurité. En tout cas, je ne vois pas de sécurité qui nous protège. On a peur. Quand on est jeune, on a peur. On est obligé de sortir, on est obligé de s'enfuir. Même on ne réfléchit pas à quoi qui nous arrive devant, on fonce, c'est tout.
Aujourd'hui, donc, tu travailles. On sait que le travail, c'est important. On y reviendra après, hein, avec peut-être éventuellement, si tu veux dire quelques mots sur cette fameuse loi immigration qui vient de passer. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais comme ce que t'as fait comme petit boulot et ce que tu fais maintenant.
Alors moi à l'époque j'étais en apprentissage, un contrat d'apprentissage dans restauration qui s'appelle Mezzeluna à côté des côté des Café Paul. C'est une restauration végétarienne qui est super bien. Et même les patrons, en tout cas des une femme qui est formidable et très gentille. J'étais avec elle un an et demi. J'ai passé mon diplôme de CAP cuisiné là-bas. Ensuite, je me suis orienté vers d'autres orientations. J'ai fait un CAP dans le domaine de l'aide à la personne. J'ai eu mon diplôme en 2020-2021. Travailler à l'EHPAD sur le Editon. J'ai travaillé tant qu'agent de maintenance, les bâtiments, l'intérieur de tout, on s'occupe de tout l'intérieur de l'EHPAD en tout cas.
Ouais, c'est à Saint-Laurent-Blangy.
Saint-Laurent-Blangy, tout à fait. J'ai travaillé presque 2 ans là-bas et là, je suis intérimaire. J'ai tout au pays et comme je suis retourné, donc ils m'ont remplacé parce que voilà, c'était aussi un contrat actuel, donc je suis remplacé et là je suis intérimaire, mais je suis content, j'y travaille toujours, mais sur les ouais, je regarde la télé beaucoup et c'est qui et pour moi c'est sur le côté, en tout cas je parle toujours sur le côté humanitaire, c'est un peu triste cette loi parce que
la loi immigration, on y revient, ouais.
C'est un peu triste cette loi qu'ils ont votée parce que comme on vient d'arriver en France, il faut savoir que c'est tellement grave, tellement difficile pour nous. On n'a pas les papiers, on sait pas, on veut bien travailler, on a envie de travailler, mais déjà il faut savoir que sans les papiers, on pourra pas travailler. Personne qui veut te embaucher. Ça c'est une. Le deux, si certaines de nous qui parlent pas français du tout, c'est tellement aussi difficile de communiquer avec les personnes que si on parlait pas. On veut bien travailler, mais on a toutes les choses là qui manquent. On a besoin quand même aujourd'hui, s'ils nous laissent au moins, par exemple, s'ils votent de loi qui dit toutes les personnes qui arrivent, on l'accueille. On fait une formation pour que les personnes apprendre à parler, en tout cas apprendre à communiquer un peu sur les compétences, sur le domaine qu'il a envie de choisir. Et là, on voit si quelqu'un il travaille ou pas. Mais là, les gens vont arriver et tout le monde est parti un peu. En tout cas, je vois que c'est très, à mon sens, c'est injuste en tout cas envers ces personnes-là. Parce que quelqu'un qui a quitté son pays, c'est pas pour le plaisir, c'est tellement que parce qu'il a vécu l'enfer. Pour moi, il a vécu l'enfer parce que moi je vis des choses qui c'est tellement grave et c'est tellement chose qui est vraiment inimaginable pour certaines personnes qui n'ont jamais vécu ça, mais voilà, c'est tellement grave en tout cas pour moi.
Alors moi j'ai encore 2 petites questions. La première, ce qui me semble une évidence, est-ce que tu as encore des contacts avec ta famille au Tchad, tes amis? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils te donnent des nouvelles et toi aussi de ce qui se passe là-bas, de comment toi tu es ici?
J'ai eu des contacts avec ma grande sœur qui c'est elle qui en tout cas il m'a déqué un peu, on peut dire qu'il m'a déqué. J'ai vécu avec elle, mes parents sont décédés à l'époque, c'était en 2008 en tout cas. J'ai vécu un peu avec ma grande sœur, j'ai du contact avec elle aussi. Je vous ai dit que j'ai retourné le voir
le mois de janvier dernier,
tu le vois, j'étais super content et super fier parce que malgré que j'ai vécu des choses, mais je suis très jeune quitter le pays, mais en tout cas ça m'a permis d'être un peu autonome, toujours autonome, de ma personnalité. Même si je suis jeune de l'âge, je suis autonome de la tête, je suis grand. Donc je suis tellement fier. Il est tellement fier aussi. On a partagé des moments ensemble. Je vois les personnes de mon village et on a partagé des moments vraiment sympathiques. Des personnes qui sont formidables. Ils ont toujours le sourire. Ils sont toujours fiers de ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, leur culture, fiers de leur culture, leur tradition. C'est des personnes formidables.
Question qui me vient aussi à l'esprit, du coup, est-ce que tu as la nostalgie quand même de ton pays? Tu es arrivé en France quand même, tu es passé par l'Italie, mais tu es arrivé en Europe, qui est la France, surtout à Arras, c'est complètement différent de ce que tu as pu avoir au Tchad, j'imagine, même au niveau ensoleillement, entre guillemets. Est-ce que tu es nostalgique de ton pays ou pas du tout, finalement?
Si, c'est un grand changement, c'est un très grand changement, en tout cas pour moi.
Il y a des choses qui te reviennent, qui te manquent? Tout simplement, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent du Tchad que tu retrouves pas en France parce que on a une culture différente et...
Non, peut-être le soleil.
Bah ouais, c'est ce que je disais.
Là-bas, il fait 40 degrés, très très chaud, 40 degrés. Ici, un peu froid, mais sinon, ouais, il y a tout ce qu'on peut trouver. Tout ce qu'on peut trouver ici, il n'y a pas de quelque chose qui manque, qui est le soleil et les familles, évidemment. Les familles... Ma famille quand même, parce que ma famille, je suis de là-bas, ma famille, toujours il me manque. Je peux dire que je suis heureux, mais il manque quelque chose que pour compléter mon joie de vivre en tout cas. Parce que ma famille là-bas, je l'appelle, et s'il y a des problèmes, je m'inquiète pour eux. Il y a ma famille qui me manque, bien sûr. Il y a ma famille, ça qui me manque en grand.
Ok. Dernière question. Tu as décidé aussi d'écrire un livre? Tu peux nous en parler un peu sans dévoiler parce que il est en cours, il est dans ta tête, j'imagine.
Tout à fait. J'aimerais écrire un livre sur aussi, en tout cas, les livres que j'aimerais écrire, pas pour moi seul, pour rendre image un peu, en tout cas, à toutes les personnes que je l'ai vu, qu'on a vécu ensemble, en tout cas, dans mon pays, ou des personnes qui ont vécu en Libye, ou la Méditerranée, rendre un vrai hommage pour les personnes qui ont malheureusement perdu leur vie dans la Méditerranée, pour rejoindre, en tout cas pour chercher un endroit meilleur. Et dans ma tête, c'est toujours un choc quand on voit des personnes qui meurent dans la Méditerranée, pas un, pas deux. Et on voit des personnes des cinquantaines, des centaines, parfois 300, parfois plus. Et même leur corps, on ne trouve pas. C'est tellement, tellement triste, en tout cas, tellement triste pour eux, et triste en tout cas, même pour nous tous, pour l'humanité, parce qu'une fois qu'on voit un humain, on voit des personnes qui meurent dans la Méditerranée. J'aimerais écrire un livre, et aussi rendre hommage aussi à ma famille. J'aimerais expliquer aussi toutes les problèmes dans ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le problème des territoires dans les
expliquer un peu, voilà. Parce que c'est vrai que nous on sait pas trop comment ça se passe.
Tout à fait.
Ok. Écoute, j'espère que tu repasseras bien vite avec ton livre quand il sera écrit, pour nous en parler. Merci Ahmed d'être passé. Merci. Et puis on te souhaite bon vent. Voilà. Merci. Et merci Sam d'avoir participé à cette interview.
De rien.
C'était un entretien avec Ahmed, réfugié tchadien, réalisé avec la complicité de Issam, notre stagiaire. Et pour illustrer ce témoignage, je vous propose de se quitter en musique avec Maxime Le Forestier, Né quelque part.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Oh.